eu de la chance, pas. Tu es tout à fait sauvé.
Eh oui. Et tu m'as aidé joliment, tu as gardé tout ton sang-froid.
Pas cette biche que tu as tuée.
Oui, alors?
Eh bien, elle t'a sauvé la vie, n'est-ce pas?
Oui, elle m'a sauvé.
Pas, tu te souviens de ce fond qu'elle avait?
Ça peut pas faire de mal.
Je m'en souviens.
Il doit avoir très peur, tout seul. Et puis, il doit avoir faim. Il ne doit pas savoir quoi faire. Il se sent à l'abandon.
Oui, peut-être.
Il ne sera pas difficile à élever, pas. Il se suffira bientôt à lui-même. Il vivra de feuillage.
Tu trouves toujours d'excellentes raisons quand tu as envie de quelque chose.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Debout sous la pluie, le garçon s'arrêta net. Un animal était venu à la rivière pendant qu'il dormait. Les traces fraîches descendaient la rive orientale et cessaient au bord de l'eau. C'étaient les pas d'une biche. Il s'enfonçait profondément dans le sol, apprenant à Jody que cette biche était vieille et lourde. Peut-être portait-elle un faon. Elle était descendue à la source et y avait bu avidement, sans le voir qui dormait. Puis elle l'avait senti. Il y avait un désordre de pas dans le sable, indiquant l'endroit où, prise de peur, elle avait fait volte-face. Peut-être n'avait-elle pas encore bu lorsqu'elle l'avait senti. Jody espérait qu'elle ne souffrait pas de la soif en ce moment, les yeux grands ouverts dans la brousse. Il chercha d'autres traces. Son père, lui, pouvait préciser l'heure du passage de toutes les bêtes sauvages. Jody revint à son petit moulin qu'il avait construit sur la berge. Une légère brise s'éleva. Le soleil réapparut et vers l'est, un arc-en-ciel se recourba, si joli et varié que le garçon se sentit s'épanouir en le regardant. Le sol était d'un vert pâle, lavé de pluie, et tous les arbres, toutes les herbes, tous les buissons brillaient, vernis et perlés d'eau. Une source de délices bouillonnait en lui, aussi irrésistible que la source du ruisseau. Il leva les bras tout droit et se mit à tournoyer sur lui-même. Il tournait de plus en plus vite. Sa joie était un tourbillon. Et quand il se sentit tout étourdi, il ferma les yeux et se laissa tomber à plat dans les genêts. Il ouvrit les yeux et le ciel bleu d'avril et les nuages cotonneux roulaient au-dessus de lui. L'enfant et la terre et les arbres et le ciel tournaient ensemble. Il se sentait le crâne vide, mais quelque chose s'était libéré en lui. Il était saoul d'avril. Il était gris de printemps.
Bonsoir, Jessica.
Bonsoir, Guillaume. Merci de votre invitation.
Merci à vous. Vous partagez avec Jody quelques taches de rousseur qui vous vont bien, mais aussi cette ivresse printanière, puisque vous allez bientôt jouer dans L'éveil du printemps de Wedekind, un auteur qui fait son entrée au répertoire de la Comédie française dans une mise en scène de Clément Hervieux-Léger, notre nouveau sociétaire. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir un grand classique de la littérature jeunesse, injustement méconnu.
Oui, il s'agit de Jody Elfant, de la romancière américaine Marjorie Kenan Wallings, prix Pulitzer et best-seller en 1939. Une référence qui a marqué mon enfance.
Mais oui, et des générations de cinéphiles. Adaptée au cinéma en 1946, l'histoire de ce garçon de ferme a été récompensée par deux Oscars, décernée à ses deux principaux interprètes, le légendaire Gregory Peck dans le rôle du père et un certain Claude Jarman Jr. dans le rôle de Jody. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à la ferme des Baxter, à la fin du 19e siècle, au cœur d'une Amérique encore sauvage où règnent la jungle et les fauves. Un matin, la ferme des Baxter est attaquée par un grand prédateur, un vieil ours gigantesque qui a la particularité d'avoir été blessé à la patte quelques années auparavant et que les Quakers de la brousse surnomment Pied-Bot.
Regarde le feu de la chenille ! La porte de la grange a été abattue !
Calme-toi, petit.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça?
C'est un ours. Regarde ça.
Oh, ça alors?
Cette sale et odieuse bête. Il tue, il laisse là tout ce qu'il tue. Ça me révolte. Et tu vas chercher cette sale bête?
Rassure-toi, j'ai l'intention de me mettre en chasse sans attendre.
Pas. Je ne peux pas venir avec toi cette fois-ci. Tu ne veux pas?
Oui, alors il ne faudra pas venir pleurer si ça se gâte.
Oh, non pas.
Tu vas l'emmener?
Et il faut bien qu'il apprenne le métier. Jody, détache le nouveau chiot pendant que je range tout ça. Toi, ma donne mon fusil et deux casse-côtes.
Penny, le père de Jody, lance ses chiens de chasse sur la piste de la bête. Les pins commençaient à se clairsemer. Les buissons étaient épais. Bientôt, vers le sud et l'ouest, s'offrit une vaste étendue plate. C'était le marécage. L'eau montait dans l'herbe à la hauteur d'un genou d'homme. Julia, la vieille chienne, plongea dedans. Un souffle d'air traversa la prairie. Les roseaux, coupants et compacts, ondulèrent et s'écartèrent. Penny observait attentivement sa chienne. À tout moment, la grande forme noire pouvait se dresser. Jody avançait prudemment derrière son père. Un héron bleu vola soudain au-dessus de lui, si près qu'il tressaillit. L'eau du marécage était froide et lourde contre ses jambes. Sa culotte était collante. La vase aspirait ses chaussures. « Il a mangé ici !» chuchota Penny. Il montrait les feuilles plates qui portaient des traces de dents sur leurs bords. Jody croyait y être.
« Oh papa, comme j'aimerais voir un ours manger. Est-ce que tu en as tué pas pendant qu'il mangeait ?»«
Non, petit. Je me suis souvent contenté de regarder quand les bêtes se nourrissent sans faire de mal. Ce n'est pas dans ma nature de tirer dans ces moments-là ou bien quand les animaux s'accouplent. De temps en temps, quand les Baxter manquaient de viande et que nous avions faim, je fais des choses qui ne me plaisaient pas. Mais ne deviens pas comme nos voisins, les foresteurs qui tuent sans besoin pour s'amuser. C'est être aussi malfaisant que des ours, tu entends ?
Oui, père.
Les fourrés paraissaient impénétrables. Jody se demandait comment l'ours avait réussi à glisser sa large masse au milieu des arbustes. Mais ça et là, des buissons s'écartaient. D'autres bêtes étaient passées par là. Le chat sauvage, le cerf, le lynx... Je crois que je ferais bien de charger. Penny versa une mesure de petits plombs, bourra encore, boucha. Autour d'eux, des fougères arborescentes montaient plus haut que leur tête. L'une d'elles, abattue, marquait la place où l'ours les avait traversées. Son odeur épicée parfumait l'air chaud. La vieille Julia était fébrile. Son nez frôlait le sol humide. Soudain, la chienne se mit à aboyer et Penny à courir. « La rivière ! Il essaie de gagner la rivière !» Un bruit s'éleva, des arbustes craquèrent. L'ours apparut comme un ouragan noir, écrasant les obstacles. Les autres chiens hurlaient, mais un son dominait tout dans les oreilles de Jody, le battement de son sang. Une tige de bambou le fit trébucher. Il tomba et se releva. Penny s'arrêta et leva son fusil. On entendit un léger choc, mais pas d'explosion. Il tira de nouveau. La sueur perlait à son front. Puis l'ouragan noir se précipita sur les chiens avec une rapidité inouïe. Il grondait et tourbillonnait et grinçait des dents, frappant dans toutes les directions. Julia sauta et s'accrocha à sa gorge velue. Jody était paralysée d'horreur. L'explosion avait fait tomber Penny sur le dos. Le fusil avait éclaté en arrière. Jody courut à son père et il était déjà debout. Sa joue droite était noire de poudre. Piebaud se jeta sur Julia et la saisit entre ses griffes. La chienne hurlait. Penny se rua désespérément au cœur de la mêlée. Il enfonça la crosse de son fusil entre les côtes de l'ours. Piebaud grogna, tourna brusquement et fonça dans l'eau. L'ours nageait de toutes ses forces, entraînant Julia avec lui. Piebaud atteignit la rive opposée et se précipita dans les épais fourrés. Il relâcha son étreinte et Julia tomba sur le sol, le poil lacéré. « Il faut que j'aille la chercher !» Il ôta ses chaussures et glissa dans l'eau. À quelques mètres de la rive, le courant s'empara de lui et le déporta violemment. Il lutta pour remonter et gagner la rive. Enfin, il arriva près de la chienne, l'examina et la prit sous son bras. De retour près de Jody, il ôta sa chemise et y coucha la chienne. Il noua les manches ensemble pour faire un baluchon qu'il prit sur son dos. Ils se remirent en marche. « Salement blessé, » dit Penny. « Il n'y a pas, il faut que je m'achète un nouveau fusil. Maintenant, je ne serai pas content tant que je n'aurai pas ce maudit ours. Mais la lutte est terrible, hein, petit ?» Jody, livide, bredouilla.
« Très terrible. »
« Et encore, petit, tu n'as jamais vu tuer un ours. » Ils ont beau être malfaisants, c'est tout de même pitoyable quand ils tombent et que les chiens leur déchirent la gorge. Alors ils crient tout à fait comme une personne. Et ils se couchent par terre et ils meurent, comme ça, devant vous.
« Je voudrais qu'on tue toutes les bêtes sauvages, »
dit Jody.
« Celles qui viennent nous voler et nous font du mal. »
« Ce n'est pas voler pour un animal. C'est la nature de la panthère et du loup et de l'ours de tuer leur viande. L'animal ne fait pas autre chose que moi quand je vais à la chasse pour nous rapporter de la viande. Je vais aussi le chasser là où il vit et dort et fait ses petits. » C'est une dure loi, mais c'est la loi. Tue ou meurs de faim. Jody était sous le choc. La ferme des Baxter lui paraissait soudain comme une forteresse assiégée par des bêtes affamées. Piebaud pouvait revenir pour tuer et dévorer. Il se mit à frissonner. Son père s'approcha de lui. « Tu as froid, petit ?»«
Je crois. »
Le garçon revoyait le vieux Piebaud chanceler, frapper, grogner. Il revoyait la vieille Julia bondir, puis tomber, sanglante et brisée. Penny glissa un bras autour de lui et le serra. Son père était le cœur de la sécurité. Son père nageait dans le courant pour chercher sa chienne blessée. La ferme était protégée et son père combattait pour elle. Un sentiment d'agréable sécurité envahit enfin Jody. Et ils reprirent ensemble le chemin de la maison.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des pois. La petite biche est aux abois, dans les bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce, ce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. La jolie princesse avait de jolis cheveux. La même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter aussi pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie.
Ça peut pas faire de mal.
Jusqu'à la fin de ma vie.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Mais la violence ne règne pas seulement dans la nature. Un ami des Baxter, Olivier Hutto, est menacé de mort par un redoutable clan, les Forrester, une famille de rudes gaillards enclins à l'alcool et à la bagarre. Olivier Hutto et Lem Forrester se disputent les faveurs d'une femme, Twink Weatherby. Humiliés lors du combat public, les Forrester, par vengeance, ont volé l'élevage de cochons de leurs voisins, les Baxter.
Sais-tu pourquoi nos cochons ne sont pas rentrés hier soir ?
Non.
On les a volés.
Volés ?
On les a attirés avec du grain. J'ai cueilli du raffia derrière le réservoir et j'ai vu ce grain sur le sol et la trace des cochons juste à côté. Ils sont venus jusque-là pour les prendre.
Qui ça, moi ?
C'est facile à deviner. Ce sont nos chers voisins.
Bon, je dis, va chercher mon fusil.
Au crépuscule, le père et le fils se mettent en route à travers la forêt sur les traces de leurs animaux. Mais blessé par un serpent, le père se voit contraint de tuer une biche pour se soigner à la dure. Le serpent se dressa soudain entre les feuilles. Jody le vit, obscur comme une ombre, plus rapide qu'un oiseau, plus sûr que la patte griffue d'un ours. Il vit son père reculer en chancelant sous le choc. Il l'entendit pousser un cri. Il avait envie de reculer lui aussi. Il avait envie de crier de toutes ses forces. Mais il restait cloué au sol et ne pouvait proférer un son. Penny mit son fusil en joue et tira. Jody frémit. Le serpent retomba, tordu par les spasmes. Des sursauts descendaient le long de son corps. Les anneaux s'affaissèrent comme des vagues à marée basse. Penny se retourna et regarda son fils. Son visage était de la couleur des cendres. « Il m'a eu. C'était un gros, un serpent à sonnette. » Il leva son bras droit et le regarda. La gorge contractée, il fixait d'un regard morne deux piqûres dans sa chair. Une goutte de sang perlait à chacune d'elles. « La vieille mort va me prendre maintenant. » Il suça ses lèvres. Puis il retourna d'un coup et partit en courant à travers la brousse, droit vers sa maison. Jody haletait à le suivre. Son cœur battait si fort qu'il ne voyait pas où il allait. Il suivait le bruit des pas de son père, faisant craquer le sous-bois. Soudain, Penny s'arrêta net. Quelque chose bougeait devant lui. Une biche se leva d'un bond. Penny soupira profondément, comme si sa respiration était soudain plus libre. Il leva son fusil, l'épaula. L'idée que son père était devenu fou traversa l'esprit de Jody. Ce n'était pas le moment de s'arrêter pour chasser. Penny fit feu. La biche tomba sur le sol et ne bougea plus. Penny courut à la bête et sortit son couteau de sa gaine. Maintenant, Jody était sûr que son père était fou. Penny n'égorgea pas la biche, mais plongea son couteau dans son ventre. Il l'ouvrit largement et arracha le foie. Il tourna son bras droit et regarda de nouveau les deux piqûres. L'avant-bras avait enflé et noircissait. La sueur coulait sur son front. Il reprit son couteau et taillada vivement à travers la blessure. Un sang sombre jaillit. Il jeta le couteau, reprit l'organe encore chaud et il pressa le foie de la biche dans l'incision. Il pressa plus fort. Il retira le morceau de viande et le regarda. Il était d'un vert venimeux. « Passe-moi le couteau » ordonna-t-il. Il coupa plus profondément dans son bras, à l'endroit où la sombre enflure était la plus forte. Jody poussa un cri.
« Pa, tu vas te saigner à mort !»«
J'aimerais mieux saigner à mort que d'enfler. J'ai vu un homme mourir comme ça. » Il renouvelait de moment en moment cette espèce de compresse. Puis quand l'organe ne réagit plus, Penny se releva et dit simplement « Ça ne peut plus rien faire. » « Je vais rentrer à la maison. Toi, va chez les foresters et demande-leur d'aller chercher le docteur Wilson. »«
Tu crois qu'ils voudront ?»«
C'est une chance à tenter. Crie bien vite pourquoi tu viens avant qu'il ne te lance quelque chose à la tête ou qu'il te tue. » Penny se retourna pour reprendre le chemin de la maison. Jody s'apprêtait à le suivre quand il entendit un léger bruissement derrière lui. Il regarda par-dessus son épaule. Un faon tacheté, debout sur des pattes mal assurées, le regardait du bord de la clairière. Ses yeux sombres étaient grands ouverts et tout étonnés. Jody appela son père.
« Papa, la biche avait un faon. »
« Tant pis, petit, ce n'est pas de ma faute, viens !» Une pitié angoissée pour le faon envahit Jody. Il hésita. L'animal levait sa petite tête surprise, il trottina jusqu'au corps de la biche et se pencha pour la flairer. Il bêla. « Plus vite, petit gars, et demande à quelqu'un parmi les foresters de venir jusque chez nous par cette route pour me ramasser au cas où je n'arriverai pas au bout. Dépêche-toi » Jody sursauta. L'affreuse image du corps de son père tout enflé gisant sur la route s'empara de lui. Il se mit à courir. Son père s'obstinait avec un lent désespoir dans la direction de la ferme des Baxter. C'est dans ces circonstances tragiques que Jody rencontre le faon qui va devenir son compagnon de jeu. De retour chez lui, Jody découvre le docteur Wilson au chevet de son père.
Docteur !
Quoi ?
Regardez !
Oh non, d'une pipe. Il revient de loin.
Il est mort.
Au contraire. Il est hors de danger.
Il me semble que je vais dormir toute une semaine.
C'est tout ce que je vous demande.
Sauvé par le courage de son fils qui a convaincu les foresters de venir à son secours, Penny accepte la requête de Jody, adopter le faon, désormais orphelin par sa faute. Ce qui déplaît fortement à Madame Baxter, appelée Ma, la mère de Jody, qui a toujours refusé d'avoir une bouche de plus à nourrir. Dès le lendemain, le garçon se met en quête de l'animal tant désiré.
Il écarta l'herbe à l'endroit où il avait vu le faon. Il ne pouvait pas croire que cela se fût passé la veille. Le faon n'était plus là. Il fit le tour de la clairière. Aucun son, aucun signe. Dans le ciel, les busards faisaient claquer leurs ailes. Jody revint au lieu où le faon avait surgi et se mit à quatre pattes pour examiner le sol, en quête de traces laissées par les menus sabots. La pluie nocturne avait effacé toutes les pistes. Enfin, sous un bouquet de palmiers nains, il parvint à distinguer une trace fine et délicate. Un mouvement soudain devant lui le fit reculer. Le faon leva son museau vers lui. Il tourna la tête d'un geste étonné, il regarde ses yeux livides bouleversa Jody. Il tremblait. Il ne fit aucun effort pour se lever ou s'enfuir. Jody n'osait pas bouger. Il murmura « C'est moi. Ne crains rien. » Le fan leva le nez pour le flairer. Jody tendit une main et la posa sur la douce nuque. Ce contact le ravit. Il s'approcha du fan à quatre pattes. Il l'enlaça de son bras. Un léger spasme parcourut le petit animal, mais il ne résista pas. Jody lui caressa les flancs aussi légèrement que s'il eût été en porcelaine et prêt à se briser. Son pelage était doux, il était lisse et net. Il sentait bon l'herbe. Il le serra contre lui et ferma les yeux. « Un jour, je me construirai une maison au bord de la rivière et je t'amènerai une biche et nous vivrons tous les trois au bord de l'eau. » Puis Jody se releva lentement, portant le fan. Il n'était pas plus lourd qu'un chien. Ses pattes pendaient mollement. Elles étaient étonnamment longues et Jody devait le soulever aussi haut qu'il pouvait sous son bras. Il craignait qu'il ne se débattît en bêlant à la vue et à l'odeur de sa mère, aussi contourna-t-il la clairière pour s'enfoncer dans le fourré. C'était difficile de se frayer un chemin avec ce fardeau. Les pattes du fan se prenaient dans les broussailles et les jambes de l'enfant se mouvaient avec difficulté. Il essayait de protéger le petit museau contre les épines. La tête du fan suivait ses mouvements. Le cœur de Jody, émerveillé de sa docilité, battait. Il atteignit le sentier et se mit à marcher aussi vite qu'il pouvait jusqu'à la route. Là, il s'arrêta pour reprendre haleine et reposa le fan sur ses faibles jambes. Elle tremblait sous lui. Il regarda Jody et Bella. « N'aie pas peur, je te reprendrai dès que je serai reposée. » Jody se rappelait avoir entendu son père dire qu'un fan suivait toujours qui l'avait d'abord porté. Il repartit lentement, le fan le regardait. Il revint, le caressa et s'éloigna de nouveau. Le fan fit quelques pas chancelants à sa suite. Il voulait le suivre. Le cœur de Jody était ailé de joie. Le petit animal lui appartenait. Il avait envie de le câliner, de courir avec lui, de le faire venir à son appel. Mais il eut peur de l'inquiéter. Il le reprit et le porta devant lui sur ses deux bras. Il se sentait aussi vigoureux qu'un forester. Il aurait pu marcher tout le jour et la nuit, alternativement portant le fan et s'en faisant suivre. Il était en sueur, mais une légère brise éventant le matin de juin le rafraîchit. Le ciel était clair comme l'eau d'une source dans une tasse de faïence bleue. Arrivé à la ferme, Jody fut obligé de poser le fan pour ouvrir la barrière. Il avait envie d'entrer dans la maison, dans la chambre de Penny, suivi de son protégé. Mais devant le perron, le fan se buta et refusa d'entrer. Jody le prit à nouveau dans ses bras et il entra chez son père. Penny était couchée, les yeux fermés. Jody cria « Pa, regarde-le !» Penny tourna la tête. Jody était debout à côté de lui, le fan serré contre lui. Il semblait à Penny que les yeux de l'enfant étaient aussi brillants que ceux du fan. Son visage s'éclaira en les voyant ensemble.
« Je suis content que tu l'aies trouvé. »
« Pa, il n'a pas eu peur de moi. Il était couché juste là où sa maman lui avait fait son lit. »«
Les biches leur apprennent ça dès leur naissance. Il y a des fois où on marcherait presque dessus tant ils se tiennent tranquilles. »
Jody souleva le fan. Penny tendit la main et toucha son museau. Le fan bêla et essaya de lui téter le doigt. Penny lui dit
« Écoute, petit camarade, je te demande pardon d'avoir été obligé de t'enlever ta maman. Sois le bienvenu dans cette maison. »
Ma Baxter entra. « Regarde, maman, je l'ai trouvé. »«
Je vois. »«
N'est-ce pas qu'il est joli, maman ? Regarde ses taches bien alignées. Papa dit que c'est le signe d'un mâle. Regarde ses grands yeux. N'est-ce pas qu'il est joli ?»«
Il est tout jeune. Il faudra longtemps du lait. Je crois pas que j'aurais donné mon consentement si j'avais su qu'il était aussi jeune. »« Chérie, j'ai quelque chose à dire et je le dis maintenant. Et il n'en sera plus question. Nous éleverons ce fan sans récriminer sur le lait et le reste. » C'est à moi que tu en répondras si je t'entends jamais disputer là-dessus. C'est le fan de Jody, exactement comme Julia est ma chienne.
Jody n'avait jamais entendu son père parler si sévèrement à sa mère. Le ton, cependant, devait avoir une certaine familiarité pour elle, car elle sourit.
J'ai seulement dit qu'il était jeune. Très bien, ainsi soit-il.
Et il ferma les yeux.
Tip-tip-top, j'aime la musique qui tombe en gouttes sur les fraises et les bois. Je enfants. Tip, tip, top, regardez la pluie dans les couleurs d'arc-en-ciel triomphant. Tip, tip, oh monsieur que c'est bon de voir dès le réveil une averse au grand soleil.
Tandis que la vie reprend un cours à peu près normal à la ferme, un triste événement va bientôt réconcilier les Baxter et leurs ennemis. Jody partage avec le cadet des Forrester la même passion pour les animaux sauvages qu'il s'amuse à attraper et à domestiquer. Souvent, Jody envie les nombreuses conquêtes de son petit voisin. Celui-ci, né infirme, bossu et boiteux, est surnommé Aile de Paille. Débordant de joie à l'idée de posséder un faon, Jody se précipite chez son ami pour lui présenter sa merveille. Mais Jody n'est pas au bout de ses peines.
Surtout, il fallait pouvoir raconter cela à Aile de Paille. Jody se mit à courir pour hâter ce plaisir. Il allait surprendre son ami. Il le trouverait dans les bois ou derrière la maison parmi ses bêtes favorites, ou bien au lit, s'il était encore malade, comme il l'avait entendu dire. Le faon marcherait à son côté. Le visage d'Aile de Paille brillerait de son étrange éclat. Il pencherait son corps contrefait et avancerait sa main douce et tordue pour toucher le faon. Il sourirait de voir Jody content. Au bout d'un long moment, Aile de Paille se mettrait à parler et ce qu'il dirait serait peut-être bizarre, mais sûrement très beau. Jody arriva au terrain de Forrester et courut sous les chênes lièges pour gagner la cour. La maison était assoupie. Aucune volute de fumée ne montait de la cheminée. On ne voyait pas de chien, mais un aboiement désespéré sortait du chenil. Les Forrester dormaient tous, sans doute, dans la chaleur de l'après-midi. Jody s'arrêta sous le porche et appela. « Aile de Paille, c'est Jody !» Le chien gémit. Une chaise racla le plancher dans la maison. Buck, le plus bienveillant des frères, parut sur le seuil. Il regarda Jody et se passa la main sur la bouche. Ses yeux étaient vagues. Jody pensa qu'il était ivre. Jody demanda d'une voix hésitante. « Je suis venue voir Aile de Paille. On m'a dit qu'il était malade. Je suis venue lui montrer mon faon. » Buck secoua la tête comme pour chasser une abeille, à moins que ce ne fût une pensée importune. Il s'essuya de nouveau la bouche. « Je suis venue exprès, » insista Jody.
Il est mort.
Les mots n'avaient pas de sens. Ce n'étaient que deux feuilles brunes qui passaient devant lui dans l'air. Mais un froid suivit leur vol et un vertige le prit. Il répéta « Je suis venu le voir ».
Tu es venu trop tard. Je serais allé te chercher si on avait eu le temps. On n'a même pas eu le temps d'appeler le vieux docteur Wilson. Une minute, il respirait, la minute d'après, c'était fini. Comme une chandelle qu'on souffle.
Jody regarda Buck, et Buck le regardait. Son vertige se transformait en paralysie. Il n'éprouvait aucun chagrin, rien qu'un grand froid et une défaillance. Aile de Paille n'était ni mort ni vivant. Seulement, il était nulle part. Buck dit rudement
« Tu peux venir le regarder. »
D'abord, Buck avait dit qu'Aile de Paille était partie comme la flamme d'une bougie et maintenant il disait qu'il était là. Rien de tout cela n'avait de sens. Buck lui fit signe. Et Jody le suivit dans la maison. Tous les hommes Forrester étaient rassemblés. Il y avait une grande unité dans leur groupe assis, immobile et lourd. Il ressemblait au fragment d'un même rocher, grand et sombre. Buck prit Jody par la main. Il le conduisit dans une grande chambre à coucher. Il voulut parler. Sa voix se brisa. Il s'arrêta net et étreignit l'épaule de Jody.
« Regarde !»
Aile de Paille était étendue, les yeux clos, petit et perdu au milieu du grand lit. Il était plus menu que lorsqu'il dormait sur sa petite couchette. Un drap le recouvrait jusqu'au menton. Ses bras étaient hors du drap, croisés sur la poitrine, les mains crispées comme dans sa vie. Jody eut peur. Ma Forrester était assise à côté de lui. Elle avait rejeté son tablier sur sa tête et se balançait d'avant en arrière en sanglotant. Jody avait envie de fuir. Le visage osseux sur l'oreiller le terrifiait. C'était Aile de Paille et ce n'était pas Aile de Paille. Buck l'attira au bord du lit.
« Il ne t'entendra pas, mais parle-lui quand même. »
La gorge de Jody était contractée. Aile de Paille semblait être en cire comme une bougie. Et soudain, il reprit son visage familier. Jody chuchota. « Salut. » Le silence d'Aile de Paille était intolérable. Maintenant, Jody comprenait. C'était la mort. La mort était un silence qui ne donnait pas de réponse. Aile de Paille ne lui parlerait plus jamais. Il se retourna et enfouit son visage contre la poitrine de Buck. Les grands bras l'étreignirent. Il resta ainsi un long moment. Lorsqu'ils quittèrent la chambre, Pa Forrester fit signe à Jody. Il s'approcha de lui. Le vieil homme lui tapota le bras. Il fit un signe vers le cercle d'hommes silencieux.
C'est curieux, hein ? On aurait pu se passer de n'importe lequel de ces gars. Le seul qu'on ne peut pas remplacer, c'est celui qui est parti. Et un chétif, un bon à rien pourtant.
Il se renversa dans son fauteuil, méditant ce paradoxe. Puis il ajouta en direction de Jody.
Ton père a une bonne éducation religieuse. Demande-lui de venir demain matin prononcer quelques prières sur la tombe de notre garçon.
Jody acquiesça et sortit sur le perron. Il sentait qu'il les blessait tous par sa présence. Mais lorsqu'il quitta la maison, Ma Forrester le rappela.
J'ai beaucoup pensé à ta mère, Jody. Elle en a enterré autant que j'en ai. Pauvre agneau. Comme mon petit aurait été content de voir ton fan. Il en parlait, il disait Jody a un petit frère.
Jody éprouva de nouveau une affreuse contraction dans sa gorge. C'est pour ça que j'étais venue. J'étais venue demander à elle de paille de baptiser mon fan.
Mais...
dit-elle.
Il l'avait déjà baptisé. La dernière fois qu'il en a parlé, il lui a donné un nom. Il a dit « Un fan, ça porte si gaiement son fanion. La queue d'un fan, on dirait un petit fanion. Si j'avais un fan à moi, je l'appellerais fanion. Fanion le fan. »
Jody répéta « Fanion ?» Elle de Paille avait parlé de lui et baptisé le fan. Une joie se mêlait à son chagrin, tout ensemble, consolante et intolérable. Dans sa douleur, il désira soudain la présence de son fan. Il le retrouva dans la cour, s'assit sous un chêne liège et le serra contre lui. « Fanion !» murmura-t-il doucement. Leurs cœurs tremblaient à l'unisson. Mais au fond de son cœur, Jody eut l'impression qu'elle de paille était proche et vivant.
Revenant chez les Baxter 6 mois plus tard, les saisons se succèdent, scandées par les travaux des champs. Mal guérie de sa blessure, Penny est affaiblie et Jody assure des tâches de plus en plus rudes à la ferme. Il faut se préparer aux épreuves de l'hiver où la nourriture se fait rare. Nous voici l'année suivante. Le fan a grandi et ne supporte plus la vie en captivité. Ma Baxter est à bout de nerfs. Un jour ensoleillé de la mi-février, Jody se trouvait au bas de la pente regardant la silhouette de Fanion se découper au sommet. L'espace d'une seconde, il éprouva l'impression bizarre que c'était un autre animal. Fanion était si grand. Jody ne s'était pas rendu compte de la rapidité avec laquelle il avait grandi. On chassait les chevreuils qui n'étaient pas plus grands que lui. Il rentra auprès de Penny, tout excité. Penny était assis près du feu de cuisine, enveloppé dans des couvertures, bien que le temps fût doux.
Ah, tu sais que Fanion est presque un chevreuil ?
Je m'en suis aperçu, mon garçon. Donne-lui encore un mois et on pourra dire que c'est un chevreuil.
Qu'est-ce qu'il aura de différent ?
Bien, il restera plus longtemps dans les bois, il deviendra plus grand. Il sera entre les deux, il sera comme un homme sur une frontière. Il quittera une chose pour une autre. Derrière lui, le fan, devant lui, le cerf. Jody était songeur.
Est-ce qu'il aura des cornes ?
Probablement pas avant juillet. Jody examina attentivement la tête de Fanion. Ma Baxter passa une poêle à la main.
Écoute, maman, Fanion sera bientôt un chevreuil. N'est-ce pas, maman, qu'il sera joli avec des petites cornes ?
Moi, je ne le trouverai pas joli quand bien même il aurait une couronne sur la tête et des ailes d'ange. Elle s'assit afin d'examiner le contenu de la poêle. Le garçon vint frotter son nez contre sa joue. Laisse-moi travailler.
Dis-moi, c'est vrai que ça t'est égal que Fanion ait des cornes ?
Ben, ce sera ça de plus pour l'aider à faire des dégâts. Il n'insista pas. Fanion n'était pas dans ses bonnes grâces. Il avait appris à se dégager de sa longe. Une fois lâché, il faisait le fou. On ne pouvait plus le retenir dans le hangar, il l'aurait démoli. Il était violent et insolent. Un jour, il entra dans la cuisine et renversa un plat de pois sec. Il eut un bruit de vaisselle renversée et les cris furieux de Ma Baxter s'élevèrent. Jody accourut. Sa mère ouvrit la porte et chassa Fanion à coups de balai. Le tumulte semblait amuser l'animal. Il frappa ses chevilles l'une contre l'autre, leva sa queue qui ressemblait à un blanc fanion, secoua la tête, sauta la barrière et s'enfuit au galop vers les bois. « Cette fois, c'est fini !» écuma-t-elle. « Cet animal ne me laisse jamais la paix. Non, il ne remettra plus les pieds dans cette maison, jamais !» Penny s'était tenue à l'écart de la discussion. Maintenant, il s'y mêlait du fond de son lit. « Ta mère a raison, mon garçon. Il est désormais trop grand et trop remuant pour vivre dans la maison. » Le mois suivant, la situation s'aggrave encore.
Qu'est-ce qui se passe, Pa ?
On avait économisé longtemps pour acheter ces plants de tabac, et voilà ce qu'il en reste.
Tu crois que c'est Fanion, Pa ? Non, c'est pas lui !
C'est Fanion. C'est grave, mon petit, il a détruit la récolte.
Mais il n'a pas fait exprès !
En mars, les dégâts de l'animal s'accumulent. Après les plants de tabac, il saccage les cultures de coton et de blé.
Malgré les efforts de Jody qui s'acharne à repiquer les semis, malgré la complicité de son père qui cache un temps la vérité à sa femme, les revenus des Baxter sont sévèrement menacés. Après avoir relevé un dernier ultimatum et tenté en vain de construire un enclos pour son animal, Jody se voit contraint à la pire épreuve.
Il attendit l'appel de son père. La conversation entre Penny et Emma Baxter durait longtemps cette fois. Il s'attendait à des difficultés. Il s'attendait à quelque chose qui le menaçait depuis des jours. Il ne s'attendait pas à l'impossible. Il ne s'attendait pas aux paroles de son père.
Jody, on a fait tout ce qui était possible. Je regrette beaucoup. Je ne peux pas te dire combien je regrette, mais nous ne pouvons pas laisser détruire notre récolte. Nous ne pouvons pas tous mourir de faim. Emmène le chevreuil dans les bois, attache-le et tire dessus.
Jody marchait vers l'ouest avec Fanion à côté de lui. Il portait le vieux fusil de Penny sur son épaule. Son cœur battait, s'arrêtait, recommençait à battre. Il dit à mi-voix, « Je ne ferai pas ça. Voilà tout. » Il s'arrêta sur la route. Il dit tout haut, « Ils ne peuvent pas m'obliger à faire ça. » Fanion le regarda avec de grands yeux, puis pencha la tête vers une touffe d'herbe au bord du chemin. Jody reprend lentement sa marche. « Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas. Ils peuvent me battre. Ils peuvent me tuer. Je ne le ferai pas. » Il tenait d'imaginaires conversations avec sa mère et son père. Il leur disait à tous deux qu'il les haïssait. Sa mère tempêtait et Penny restait calme. Sa mère le battait avec une branche d'arbuste jusqu'à ce qu'il sentît le sang couler sur ses jambes. Il lui mordait la main et elle le battait de nouveau. Il relevait la tête et disait « Tu ne peux pas me forcer, je ne le ferai pas. » Il lutta ainsi jusqu'à une extrême fatigue. Il s'arrêta à la clairière abandonnée. Il se jeta dans l'herbe, sous un arbre à chapelet, et sanglota jusqu'à ce qu'il n'eût plus de sanglots. Fanion vint le caresser du museau et il l'étreignit. Il s'assit, pantelant. « Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. » Quand il se releva, il était étourdi. Une pensée lui vint, aiguë. Il lui sembla qu'il supporterait d'être séparé de Fanion s'il savait le chevreuil vivant quelque part dans le monde. Il irait trouver Buck et se livrerait à lui. Il lui parlerait d'aile de paille jusqu'à ce que la gorge de Buck se serra. Alors il lui demanderait d'emmener Fanion à Jacksonville dans sa carriole. On mettrait Fanion dans un vaste parc où les gens viennent pour regarder les animaux. Il y gambaderait, on lui donnerait beaucoup à manger et une biche et chacun l'admirerait. Lui, Jody, ferait des cultures pour son compte afin de gagner de l'argent et une fois par an, il irait rendre visite à Fanion. Il ferait des économies et il aurait une ferme à lui. Et il rachèterait Fanion et ils vivraient ensemble. Il était rempli d'enthousiasme. Il avait la gorge sèche, les yeux gonflés et brûlants. Son espoir le ranimait.
Hélas, les Foresters ne sont d'aucun secours. Jody doit faire face à la mort et accepter de grandir. Jody ne pardonne pas à son père d'avoir prononcé la sentence de mort implacable. Une dernière issue se présente à lui, fuguer. À bord d'un canoë de fortune, le garçon espère rejoindre Jacksonville, puis Boston, où il projette de s'engager comme marin. Mais le trajet est long et une autre épreuve l'attend, la faim. Une espèce d'engourdissement avait longtemps figé ses pensées. À présent, elles se précipitaient comme les loups dans l'étable. Elles étaient si déchirantes qu'il lui semblait qu'il devait invisiblement saigner, comme Fanion avait saigné. Fanion était mort, il n'accourrait plus jamais à lui. Il se tortura à se répéter
« Fanion est mort ».
Mot amer, il n'avait pas encore touché sa plus profonde blessure. Il dit tout haut
« Papa s'est mis contre moi ».
C'était une horreur plus aiguë que si Penny était mort de la morsure du serpent. Il frotta ses poings sur son front. La mort était insupportable. Aile de paille était mort et il pouvait le supporter. La trahison était insupportable. Si Fanion était mort, si l'ours, le loup ou la panthère s'étaient glissés vers lui, il aurait éprouvé un grand chagrin, mais il aurait pu le supporter. Il serait allé chez son père et son père l'aurait consolé. Sans Penny, il n'y avait pas de consolation possible. Le sol s'était désagrégé sous lui. Une nouvelle onde de solitude l'envahit. Il avait perdu Fanion et il avait aussi perdu son père. Le petit homme maigre qu'il avait vu pour la dernière fois, accroupi de souffrance sur le seuil de la cuisine, était désormais pour lui un inconnu. Il remit son canoë à l'eau, prit sa pagaie et se dirigea vers le milieu du lac. Il était lancé dans le monde et il lui semblait qu'il y était étranger et solitaire, et qu'il allait à l'abîme. Il pagaya dans la direction où devait passer le vapeur. La vie ne se concentrait plus dans le chagrin derrière lui,
mais dans l'angoisse devant. Il tremblait de fatigue et de peur. Il se dit qu'il n'était pas perdu car le fleuve sortait au nord du lac George et finissait par arriver à Jacksonville. Il n'avait qu'à le suivre. Mais il était si large et la rive si confuse. Ses crampes d'estomac étaient aiguës. Il eut une vision de fièvre de la table des Baxter. Il voyait des tranches de jambon fumantes et ruisselantes. Il en sentait la savoureuse odeur. Il voyait des biscuits dorés, du pain blanc à croûte brune. Il aurait disputé aux chiens leur pâté. C'était donc cela la fin. C'était de ça que sa mère parlait lorsqu'elle disait « Sans récolte, nous aurons faim ». Il avait ri car il croyait connaître la faim et c'était une sensation agréable en somme. Il savait à présent que ce n'était là que l'appétit. Il s'agissait d'autre chose à présent, d'une chose terrifiante. Une grande mâchoire l'enveloppait et des griffes s'enfonçaient dans sa chair. Il se défendit contre une nouvelle panique. Il trouverait bientôt une cabane de pêcheurs, se dit-il. Il mendierait de la nourriture avant de continuer. Aucun homme ne refuse une pitance à son semblable. Il pagaya vers le nord, le long de la rive, pendant tout le jour. Vers la fin de l'après-midi, il eut des nausées dues à la chaleur du soleil, mais il n'avait rien d'autre à vomir que l'eau de la rivière qu'il avait bue. Une cabane apparut entre les arbres, et il y entra plein d'espoir. Elle était vide. Il se fit un lit avec quelques haillons habités de vermine qui traînaient là. Il dormit d'un sommeil ivre traversé de cauchemars.
In style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Mais les rêves d'évasion tournent court et Jody perd ses dernières illusions d'adolescent. Nous voici parvenus à la fin de nos aventures. Recueilli à temps à bord d'un bateau, le jeune garçon est sauvé in extremis, mais il est débarqué de force à l'escale suivante dans la ville de Volusia, à peine 20 km de chez lui. Nous sommes au mois d'avril. Un an a passé depuis que nous avons fait la connaissance du jeune garçon. L'ivresse du printemps a laissé place à une profonde amertume. Cette douloureuse prise de conscience a pour nom la maturité. Permettra-t-elle le pardon ? À vous le mot de la fin, Julie Sicard.
Il traînait le long de la route. Le soleil était fort, l'hiver était fini. Il songea vaguement que c'était l'avril. Le printemps s'était installé dans la brousse et les oiseaux chantaient dans les buissons. Lui seul, dans le monde, était sans foyer. Il était allé voir le monde. Et le monde était un rêve agité, fugitif et désolé, flanqué d'étangs et de cyprès. Il s'arrêta pour se reposer au milieu de la matinée à l'intersection de la Grand Route et de la Route du Nord. Sa tête commençait à lui faire mal. Il se disait qu'il n'avait pas l'intention de rentrer à la maison. Il irait seulement jusqu'à la source. Il descendrait vers la rive fraîche et ombreuse et s'y étendrait un moment au bord de l'eau courante. Tous ces eaux lui faisaient mal. Il avait tellement soif que sa langue était collée à son palais. Il descendit vers la source en trébuchant, se laissa tomber à plat ventre au bord de l'eau profonde et il but. Il but jusqu'à ce que son estomac fût gonflé. Il se sentit mal à l'aise, roula sur le dos et ferma les yeux. La nausée passa, il était engourdi. Il restait étendu, anéanti de fatigue. Il flottait dans un espace hors du temps. Il ne pouvait ni avancer, ni reculer. Quelque chose était fini. Rien ne commençait. Vers la fin de l'après-midi, il s'éveilla. Il s'assit. Il pensa, c'est l'avril ? Un souvenir le traversa. Il était venu là un an auparavant, par un jour suave et tendre. Il avait pataugé dans l'eau et s'était étendu comme à présent dans l'herbe. Il y avait eu là quelque chose de beau et de plaisant. Il s'était fabriqué un moulin. Il se leva, le cœur battant plus vite. Il lui semblait que, en retrouvant son moulin, il retrouverait avec lui toutes les autres choses disparues. Le moulin n'existait plus. L'eau l'avait emporté avec son joyeux tournoiement. Il se répéta avec obstination, « Je vais m'en faire un autre. » Il coupa des rameaux au merisier sauvage. Il les tailla fiévreusement. Il découpa les ailes dans une palme. Il installa son ouvrage et mit les ailes en mouvement. Elles tournaient. Le moulin tournait. Mais il n'y avait pas de magie dans ce mouvement. Le moulin avait perdu sa vertu exaltante. Il dit, « Jeu d'enfant. » Il le démolit du bout du pied. Les débris flottèrent sur l'eau. Il se jeta sur le sol et se mit à sangloter amèrement. Il n'y avait plus de consolation nulle part. Il y avait Penny. Une onde de nostalgie l'envahit et il éprouva soudain le besoin impérieux de le voir. Ne pas le voir était intolérable. Le son de la voix de son père était une nécessité. Il se releva, remonta la rive et se mit à courir sur la route de la clairière, pleurant tout en courant. Son père ne serait peut-être plus là. Il était peut-être mort. Sa récolte dévastée et son fils en fuite, peut-être pris de désespoir, était-il parti et Jody ne le retrouverait-il plus jamais ? Il sanglota. « Pas. Attends-moi. »
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia, avec à la technique Pascal Bénard. Elle a été préparée par Estelle Gap et Claire Tesser. Merci beaucoup Julie Sicard pour ce roman tiré de vos souvenirs d'enfance. On vous retrouvera sur scène donc à partir du mois d'avril à la Comédie Française dans l'éveil du printemps de Védekine dans une mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Et vous dédiez cette émission, je crois, à
mon père.
Voilà, bonne soirée, à la semaine prochaine. Et demain, n'oubliez pas, nous sommes le 1er avril. Poisson avril.